Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 20 novembre 2020, cet épisode, le numéro 1921, s'intitule « Claire Gautreau nous présente la viole de gambe, deuxième partie ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus comme les notes culturelles, les tourneurs de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. Les messages me font très plaisir et je pense qu'ils feront aussi très plaisir à Claire si vous avez envie de nous en envoyer. Vous pouvez le faire par Facebook, Instagram ou par email à frenchday@gmail.com. Claire Gautreau nous présente la viole de gambe, deuxième partie. Dans l'épisode de mercredi, Claire Gautreau, musicienne et professeure de viole de gambe, nous a présenté cet instrument. Les frettes, les cordes, l'archet, le chevalet en arc de cercle. Vous avez pu aussi l'entendre dans différents registres. Oui, c'était un épisode musical. Aujourd'hui, Claire nous emmène dans les salons des cours européennes, nous parle du violon et évoque les tablatures. Tout d'abord, Claire va nous dire dans quelle catégorie d'instruments se situe la viole de gambe.
La viole de gambe est un instrument aristocratique, c'est un instrument de cour, c'est un instrument qu'on ne joue pas dans la rue. Il y a des catégories d'instruments et de répertoires. Au Moyen-Âge, à la Renaissance, à l'époque baroque, puis à l'époque classique, les instruments de rue, les instruments de cour, les instruments hauts, c'est-à-dire les instruments qu'on joue dehors à la cour, et les instruments de salon. La viole de gambe est un instrument qui a un timbre et un mode de jeu qui est très intime. On ne joue pas dehors avec la viole, on ne joue pas dans la rue. Le violon, lui, est une espèce de gavroche italien qui arrive comme ça en France à partir de la fin de la Renaissance et à l'époque baroque et qui va arriver tout fier et tout ensoleillé avec un discours haut et fort et va complètement balayer cette présence de la viole de gambe au fur et à mesure. Même à la cour, c'est un instrument de rue qui devient à la cour un instrument très très utilisé dans tout le répertoire français, italien, allemand, parce que c'est un instrument qui chante assez parfait, je l'avoue. Mais la viole de gambe a ses fragilités et son intimité de jeu, qui à la cour en particulier de Louis XIII et de Louis XIV, a une très très haute place avec le clavecin et le luth, ou le théorbe, qui est l'instrument accompagnant basse de la famille des guitares, des cordes pincées et des luths. De nombreux musiciens, compositeurs, interprètes et enseignants travaillent dans les cours d'Europe. La cour de Louis XIV, toutes les cours italiennes, aussi chez les dirigeants allemands des différents Länder et des grandes villes qui ont des cours actives, et aussi auprès des paroisses et des grandes institutions religieuses qui engagent des musiciens. La viole de gambe est jouée dans les offices religieux et dans les salons. Louis XIV est notre roi artiste. C'est un roi qui a marqué l'histoire de France comme aucun peut-être. Aujourd'hui encore, beaucoup d'institutions, comme les académies par exemple, et de nombreux actes politiques ou culturels sont encore des traces de ce roi danseur qui a énormément favorisé le développement des arts à la cour de Versailles en particulier. Je laisserai des historiens expliquer mieux le pourquoi de ce choix politique de Louis XIV, qui cherchait en fait beaucoup à non seulement assouvir lui ses désirs artistiques, de pouvoir se montrer comme danseur, mais aussi d'occuper toute cette cour, tous ces aristocrates puissants qui pouvaient gêner sa politique, et il les occupait par une vie culturelle, artistique et religieuse démesurément riche qui a énormément favorisé le développement de l'opéra, appelé en France la tragédie lyrique, mais aussi de très nombreuses œuvres, puisque des musiciens, comme moi ou comme mes collègues, Pardon, j'aurais dû commencer par mes collègues. Si on nous engage, alors on donne le meilleur et on laisse toute notre créativité bâtir un monde artistique. Un des très très grands compositeurs de viol de gamme française que vous connaissez tous, j'imagine, Marin Marais, a écrit 5 livres de pièces de viol extraordinaires, plus un livre de pièces en trio pour 2 instruments aigus et basse continue, qui font le cœur de notre répertoire français. Mais il ne faut pas être chauvin et ne pas oublier que l'Angleterre est aussi un très très grand pays de la viol de gambe. Des immenses violistes ont écrit de nombreuses pièces, pas toujours écrites dans l'écriture traditionnelle clé de sol, clé du 4 et clé de fa, mais souvent en tablature. Il faudrait que je vous fasse quelque chose sur la tablature. Mais je ne peux pas résister à l'envie de vous décrire ça en 2 mots. Sur la partition, la tablature, au lieu de dessiner des lignes et de placer les notes en fonction de leur hauteur, les lignes montrent, dessinent les cordes de la viole. Et les petites lettres désignent les frettes concernées. Cette écriture musicale, très proche de l'instrument et très éloignée de la théorie musicale, permettait à des amateurs de pouvoir jouer de la viole de gamme sans savoir lire la musique. Pour moi qui viens du violoncelle et qui ai appris le solfège, science vraiment très importante pour les musiciens, l'écriture de la tablature ne m'est pas du tout familier. Je ne comprends pas pourquoi on m'indique un geste alors que moi je passe par la lecture et ensuite je trouve le geste que j'ai mémorisé. Tout cela est très intéressant. C'est très intéressant artistiquement, c'est très intéressant humainement et pédagogiquement. Voilà pour cette petite introduction sur la viol de gambe. Je serais ravie, à côté de Laetitia, de vous en dire plus dans de prochains épisodes que l'on vous réserve.
Un grand merci Claire pour cette belle présentation. Je serais ravie que tu continues à nous faire découvrir l'histoire ou le répertoire de cet instrument qui chante si bien l'âme humaine. Cet épisode vous a plu ? N'hésitez pas à nous le faire savoir à Claire et moi en envoyant un petit message à frenchday@gmail.com. Cela nous fera énormément plaisir. Nous sommes vendredi, je vais vous souhaiter de passer un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.